Salut, c'est l'atelier des médias.
Salut, c'est Steven Jambot. La petite voix que vous venez d'entendre, c'est mon fils Marius. Pour tout vous dire, je vous parle cette semaine depuis mon appartement à Paris. C'est une première et sans doute pas une dernière. Comme 67 millions de Français et plus de 3 milliards d'êtres humains, je suis en situation de confinement à cause du coronavirus. Et je vous assure qu'entre le travail et la vie de famille, je n'ai pas le temps de m'en aller. D'ailleurs, vous entendrez peut-être mes enfants derrière moi pendant cette émission, car la vie continue et on fait tous comme on peut. Tout à l'heure, je discuterai avec le correspondant de RFI en Chine, d'où est partie la pandémie. Mais d'abord, je vais appeler le secrétaire général de Reporters sans frontières. RSF affirme que si la presse chinoise était libre, le coronavirus ne serait peut-être pas devenu une pandémie. Bonjour Christophe Deloire.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières. Je vous dis bienvenue dans l'atelier des médias de RFI. Avant de démarrer cet entretien, je vais commencer par vous poser une question que l'on se pose peut-être plus que d'habitude ces jours-ci. Comment allez-vous, vous et vos proches ?
Oui, c'est sûr que c'est une question qui est plus profonde, moins de politesse formelle que d'habitude. Moi, je vais bien, je m'adapte au confinement, c'est le cas de mes proches aussi. C'est le cas de l'ensemble de l'équipe de RSF, mais évidemment, ça fait changer et notre mode de travail et notre mode de vie.
Alors justement, comment RSF continue de travailler actuellement compte tenu de la situation sanitaire de par le monde ?
Tout simplement, on travaille en télétravail, c'est-à-dire que nos bureaux sont évidemment totalement fermés. Que ce soit notre siège à Paris ou nos bureaux dans l'ensemble du monde, on a des bureaux dans 14 villes dans le monde, chacun chez soi, on continue notre travail de plaidoyer public, on le fait de manière évidemment prioritaire sur les questions du coronavirus, on continue aussi notre travail de plaidoyer plus discret, ce qu'on appelle « behind the doors », c'est-à-dire la sensibilisation des autorités un peu partout. Ça, c'est plus difficile évidemment aujourd'hui d'envoyer des courriers sur tel ou tel cas à des autorités qui sont évidemment moins réceptives, mais on travaille en ce moment de manière très intense, y compris sur la question des journalistes en Syrie. On n'a pas abandonné ça. C'est le cas partout dans le monde. On a des correspondants dans 130 pays. Et puis, on se focalise évidemment aussi sur les enjeux de soutenabilité de l'organisation, parce que c'est une période inquiétante pour l'ensemble de l'économie, et y compris pour l'économie des ONG.
Alors, je vous appelle suite à la publication par RSF mardi 24 mars d'un article démontrant que si la presse était libre en Chine, on ne vivrait peut-être pas aujourd'hui une pandémie de coronavirus. En substance, vous expliquez que la censure et le contrôle imposé par les autorités chinoises sur les médias ont empêché les habitants de Wuhan de saisir l'ampleur du danger dès le début. J'aimerais qu'on discute ensemble de la chronologie. Donc, vous mettez plusieurs dates avec des moments clés, en fait, où les médias chinois, s'ils n'étaient pas empêchés de travailler ou s'ils n'étaient pas mis aux ordres par les autorités, auraient pu alerter tout le monde. J'aimerais d'abord qu'on parle du 20 décembre à Wuhan, dans la province du Hubei. C'est un mois après le début de l'épidémie. On compte déjà une soixantaine de malades qui sont atteints d'une pneumopathie. Et à ce moment-là, les autorités ne jugent pas utile de communiquer ces informations aux médias. C'est symptomatique, ça, du fonctionnement du système chinois ?
Ben c'est plus que symptomatique, puisque c'est une des causes de la propagation. Si les autorités de Wuhan n'avaient pas caché aux médias l'existence d'un début d'épidémie lié à un marché très 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 populaire, ce marché aux poissons de Wuhan, le public aurait sans doute cessé de lui-même de fréquenter ce lieu avant sa fermeture officielle. Ça a été seulement le 1er janvier, donc 10 jours plus tard. La sensibilisation donc du public, un, mais deux, la sensibilisation même des autorités, plus largement des autorités dans la région et puis des autorités chinoises. Il est évident que lorsqu'il y a une forme de mise sous cloche informationnelle, et c'est le cas en Chine, et ça a été le cas là de manière très claire, ça empêche l'ensemble des réactions d'être exécutées en temps et en heure. Donc la réaction du public comme la réaction des autorités.
Et également, vous citez la date du 25 décembre, où une docteur, la directrice du département de gastro-entérologie de l'hôpital numéro 5 de la ville de Wuhan, elle est au courant, elle sait qu'il se passe quelque chose, mais elle non plus n'ose pas parler aux médias.
C'est évident qu'en Chine, ce pays qui est classé 177e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, où des dizaines de journalistes et par ailleurs de citoyens qui ont diffusé des informations sont en détention, ce qui dans un autre pays aurait été une source des journalistes, quelqu'un qui aurait alerté sa hiérarchie et alerté les médias, ben là, elle l'a pas fait. Donc les autorités finalement ont réagi 3 semaines plus tard qu'elles n'auraient dû le faire. Ça a des conséquences très graves. Et ce que cette crise met en exergue, c'est qu'au fond, la censure, c'est pas une affaire intérieure. Il y a des États, et notamment des États despotiques, qui disent en gros, c'est nos affaires. Vous nous laissez tranquilles. Nous, ça fait des années qu'à Reporters sans frontières, on prétend que non, lorsqu'il y a des violations de la liberté de la presse, c'est évidemment grave pour les citoyens du pays lui-même, mais c'est grave y compris dans d'autres pays, parfois à l'autre bout du monde et parfois pour l'ensemble de la planète. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver avec cette crise du coronavirus. C'est la démonstration malheureusement parfaite et terrible que des violations ici peuvent avoir des conséquences partout et que donc c'est l'affaire de tous, et d'abord évidemment au premier chef des Chinois, que d'éviter un tel niveau de répression de la liberté de la presse dans ce pays.
Alors Reporters sans frontières s'intéresse aussi beaucoup et soutient les lanceurs d'alerte. En Chine, le 30 décembre, un appel est lancé par la directrice du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan et un groupe de médecins. Sur Internet, ils postent une alerte et les médias chinois ne le reprennent pas, cet appel, parce que eux aussi sont sous contrôle.
Oui, et puis les 8 des médecins ont été interpellés par la police le 3 janvier. Et prétendument, enfin en tout cas c'est le motif officiel, pour avoir fait circuler de fausses rumeurs. Les fausses rumeurs, c'est en fait des informations qui dérangent le pouvoir. Alors ça c'est un classique du régime chinois. Il faut dire qu'à sa prise de pouvoir, le président Xi Jinping a lancé une grande campagne contre les rumeurs, c'est ainsi qu'il l'avait officiellement appelé, et qui consistait en fait à durcir la répression du journalisme dans ce pays, à durcir la répression sur les réseaux sociaux. On voit bien ce que c'est la répression de ces fausses rumeurs entraîne comme conséquence.
Et on voit qu'en Chine, il y a un réseau social qui est massif, qui est utilisé par quasiment tout le monde, qui s'appelle WeChat, qui lui aussi a été censuré dès la fin décembre avec des mots-clés qui, lorsqu'ils étaient utilisés, ces conversations n'apparaissaient plus pour le grand public. C'était vraiment l'idée qu'il y ait une omerta de la part des autorités.
Oui, le réseau social WeChat, c'est un réseau social qui compte quand même 1 milliard d'utilisateurs actifs en Chine. Enfin, c'est un gigantesque réseau social. Évidemment, s'il n'avait pas été censuré, ça aurait pu permettre aux journalistes de diffuser des reportages, des conseils de prophylaxie, aussi qui auraient contribué à un meilleur respect des règles préconisées par les autorités de santé. Ça n'aurait pas nécessairement complètement éteint l'épidémie, ça. Il est toujours difficile de faire l'histoire, mais en tout cas, très clairement, ça aurait permis aux autorités chinoises de gagner du temps, d'essayer d'endiguer de manière plus prompte qu'elles ne l'ont fait cette épidémie, et puis ça aurait permis à l'ensemble du monde de se préparer mieux. Donc ça a eu des conséquences là encore partout.
Et vous parlez également de la presse professionnelle, enfin plus spécifiquement de la presse scientifique qui, dès début janvier, aurait pu diffuser le génome du coronavirus, donc en gros sa signature qui aurait fait que les scientifiques à travers le monde auraient pu commencer à travailler sur cette nouvelle forme de coronavirus, le SARS-CoV-2. Et en gros, le 5 janvier, l'équipe d'un professeur chinois décide de faire passer cette information et au final, ils ont réussi à la faire fuiter sur Internet, mais n'ont pas pu le faire par des canaux officiels.
Ça, c'est un des éléments les plus impressionnants. C'est effectivement que c'est ces chercheurs qui ont fait fuiter l'information sur des plateformes en libre source et qui ont pris ce risque. Et c'était un risque réel. Et d'ailleurs, leur laboratoire a été fermé en représailles. C'est-à-dire que les autorités chinoises, plutôt que favoriser la diffusion de cette information qui était essentielle pour la recherche dans l'ensemble du monde, la question de la séquence du génome, plutôt que de contribuer à leur diffusion, ont sanctionné ceux qui l'ont fait. C'est d'une certaine manière assez incompréhensible et la seule rationalité ou la seule compréhension qu'on puisse en avoir, c'est en fait celle d'un régime répressif qui, y compris face aux pires crises, a ses réflexes habituels avec le préjudice pour l'ensemble de l'humanité.
Alors, au-delà du coronavirus, que Donald Trump s'applique d'ailleurs à qualifier de virus chinois, il y a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui fait des victimes, si j'ose dire, du côté des journalistes. Plus d'une douzaine de correspondants en Chine de 3 grands quotidiens américains, le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal, se sont vus retirer, il y a une dizaine de jours maintenant, leur autorisation de travail en Chine. Et Pékin, évidemment, jure que ça n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Qu'en dites-vous ?
Ben, ça a évidemment à voir, d'abord parce que des mesures ont été prises depuis des années par Pékin contre des journalistes, alors toujours pour des motifs administratifs, mais les renouvellements de visas liés, soi-disant, à des demandes qui n'auraient pas été faites dans les formes, même quand c'est l'administration qui ne répondait pas. En fait, Donc, sous des prétextes administratifs, on empêche des journalistes de travailler, on les expulse. C'est une forme de guerre de l'information qui est très difficile à traiter. Et nous, on pense que ces guerres de l'information avec une forme de possible montée aux extrêmes de « je t'expulse tes journalistes » et en réponse, un autre dirigeant expulse ceux du premier pays. Ça, c'est extrêmement dangereux. Là, c'est assez stupéfiant que ça soit fait par la Chine dans cette période de coronavirus et précisément, y compris les journalistes étrangers n'ont pas pu travailler comme ils l'auraient dû en Chine. Donc, nous, on pense que les décisions prises par Trump n'ont pas été pertinentes et non plus, et d'une certaine manière sont dangereuses, sans mettre sur le même plan, et ça, je pense que c'est très important, ces journalistes du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post, qui sont des journalistes qui sont indépendants vis-à-vis des autorités de leur propre pays, et des journalistes de médias officiels chinois aux États-Unis, lesquels médias officiels ne laissent aucune indépendance à leur rédaction. Donc, c'est pas la même chose, et ça, je pense que il faut se garder des fausses symétries. Mais le problème aujourd'hui pour les démocraties, c'est que les régimes despotiques laissent à penser qu'il y a des formes de symétrie entre ce type de mesures qui sont prises.
Oui, c'est-à-dire qu'on rappelle que Pékin a qualifié ça de mesure de rétorsion d'une certaine façon, puisque Donald Trump avait décidé de restreindre à 100 journalistes chinois accrédités aux États-Unis. Hein. Mais vous le rappeliez également, les journalistes américains qui ont été visés en Chine sont souvent des journalistes aguerris, qui sont sinophones, qui s'étaient rendus dans le Xinjiang pour couvrir la répression contre les Ouïghours, ou qui étaient allés également à Wuhan au tout début de l'épidémie de coronavirus. Dernière question que j'aimerais vous poser. Au dernier classement mondial de la liberté de la presse en 2019 publié par RSF, vous rappeliez que la Chine se situait au 177e rang sur 180. Pour quand est le prochain classement ?
Le prochain classement sera publié le 21 avril prochain. C'est une grande question chez nous. Est-ce qu'on reportait la parution de ce classement ? Et on a pensé que dans cette période, finalement, il y a une démonstration tellement forte de l'importance de la fiabilité de l'information, de sa liberté, de son indépendance, de son pluralisme, qu'il fallait surtout pas reporter la publication de ce classement qui viendra quelques jours avant le 3 mai, qui est la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Bon, eh bien, nous nous en ferons l'écho dans l'atelier des médias. Je rappelle aussi que RSF publie chaque année un album pour la liberté de la presse. Il met cette année à l'honneur le photographe de légende Philippe Halsman. On peut aussi lire les propos de la veuve du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui, on le rappelle, a été sauvagement assassiné en octobre 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Cet album, il coûte 9,90 €. On pourra à nouveau le trouver, j'espère, bientôt dans toutes les bonnes librairies, en tout cas quand elles auront rouvert. Le fait justement que les librairies soient fermées, est-ce que ça a un impact sur vous et sur les ressources de Reporters sans frontières ?
Évidemment que ça a un impact, d'autant que cet album il sert à financer 30% des activités de l'organisation. Il est disponible dans les librairies, mais aussi dans tous les points de vente presse. Certains sont encore ouverts et d'une certaine manière, cette période de confinement, elle est propice à la lecture. Donc, et aussi, je dirais, à un photographe tel que Philippe Halsman, qui est ce photographe qui a inventé ce qu'on appelle la jumpologie, c'est-à-dire de prendre en photo les gens en train de sauter. Pourquoi ? Parce que au moment où ils sont en train de sauter, ils se constituent plus un visage. Donc, il y a une forme de protection sociale qui saute et on voit leur vérité. C'est intéressant de regarder ça en ce moment.
Non, merci beaucoup, Christophe Deloire, d'avoir répondu à mes questions.
Au revoir.
Portez-vous bien et à bientôt dans l'atelier des médias. Suite à cet entretien, j'ai contacté Stéphane Lagarde, un nom et une voix que les auditeurs de RFI connaissent bien puisque c'est notre envoyé spécial permanent à Pékin. Si la censure est un fait en Chine, Stéphane Lagarde a constaté en janvier une effervescence dans les médias chinois et noté que des journalistes faisaient clairement leur boulot. Mais cela a duré un temps jusqu'à ce que la propagande reprenne le dessus ces dernières semaines. Salut Stéphane.
Salut Steven.
Où es-tu et comment ça va ?
Eh ben ça va bien, je suis en Corée du Sud depuis maintenant près d'un mois, en Corée du Sud où je suis venu couvrir l'épidémie donc qui a démarré aussi, enfin la flambée de l'épidémie qui a démarré il y a un peu plus d'un mois ici et qui maintenant est stabilisée dans ce pays. Enfin, pour l'instant, hein, parce que les experts sont toujours un peu très réticents à parler de triomphalisme. Ils disent que ça va durer, qu'il peut y avoir des nouveaux foyers chaque minute. Donc voilà, on est quand même prudent. Mais ça va beaucoup mieux. Je suis pas confiné, moi, comme vous. Je peux sortir. J'ai été ce week-end dans les parcs, donc ça a rien à voir avec la situation en Europe aujourd'hui.
Alors, j'aurais envie de te demander, toi qui es notre correspondant en Chine, quand as-tu entendu parler pour la toute première fois du nouveau coronavirus ?
Je m'en rappelle très bien de cette date, puisque j'étais en vacances, je finissais des reportages à Hong Kong, et j'étais en vacances, c'était pour tout simplement pour passer la nouvelle année. Donc j'ai vu un article dans le South China Morning Post, qui est un journal anglophone de Hong Kong, qui est un des meilleurs sur l'Asie, j'ai vu un article qui parlait d'une mystérieuse pneumonie virale, et c'est à ce moment-là, dans un marché aux animaux, dans un marché aux fruits de mer, que j'ai découvert par la suite, à Wuhan, donc Wuhan qui est une ville que connaissent bien les Français, parce que Wuhan c'est la ville où il y a le plus de Français en Chine quasiment, où il y a beaucoup d'entreprises françaises, donc on connaît bien cette ville au centre de la Chine, et on parlait d'une mystérieuse pneumonie qui faisait peur. C'était le 1er janvier dernier.
Alors, tu t'es rendu à Wuhan mi-janvier, avant les mesures de confinement dans la province du Hubei. Est-ce que tu y as croisé beaucoup de journalistes chinois ou étrangers ?
Alors, pour être précis, je suis venu la veille de la fermeture de Wuhan. On anticipait cette fermeture, les journalistes à Pékin, on s'est dit il faut y aller. Et donc, moi, je suis arrivé la veille et le lendemain, quand je suis parti, le soir même, le lendemain du soir où je suis rentré à Pékin, le lendemain matin, la ville était fermée. Alors oui, j'ai croisé des journalistes étrangers, peu en fait, parce que c'était déjà pas la panique, mais en tout cas beaucoup moins de monde dans les rues, déjà des rues masquées. Mon chauffeur de taxi, j'avais tweeté à l'époque, ce chauffeur de taxi portait un masque, donc tout le monde portait des masques, plus qu'à Pékin. J'avais été surpris de cela en descendant à la gare. Et j'ai croisé l'équipe de France Télévisions qui est restée tout le temps, qui est toujours d'ailleurs à Wuhan aujourd'hui. Arnaud Miguet, Gaël Caron, je les ai croisés parce qu'on cherchait des témoins, c'était compliqué. Je me rappelle avoir fait une trentaine d'interviews pour trouver des gens qui me parlaient du marché, notamment dans le quartier du marché des fruits de mer. Donc j'avais beaucoup, si vous me parlez de l'expression, galéré à faire mes sujets parce que tout le monde était chez soi déjà. Donc, j'avais trouvé, je me rappelle, une jeune femme dans une patinoire qui me disait qu'il y avait de moins en moins de monde. Et puis après, j'avais été essayer de trouver des Français. Pareil, je ne les trouvais pas. J'ai trouvé un coiffeur français. Et en sortant de chez ce coiffeur français qui continuait à faire de la coiffure à la maison, et ben j'ai croisé mes amis Arnaud Miguet et Gaël Caron de France Télévisions qui sont restés. Mais sinon, je n'ai pas vu beaucoup de journalistes parce que ça a été très vite.
Est-ce que tu sentais, toi, le danger en tant que reporter à ce moment-là, à Wuhan ?
Mais pas autant qu'aujourd'hui, j'avoue. Alors, à RFI, c'est quand même une grande maison pour cela. On est protégé. J'avais eu, évidemment, l'aval de ma hiérarchie. J'ai un médecin du travail qui me suivait. J'ai vu un médecin avant de partir. J'avais des masques, tout ça. Mais quand même, moi, je m'en suis rendu compte après. D'abord, il y a plein de choses qu'on connaissait pas sur ce coronavirus. Je vais pas y refaire l'histoire, mais comme on l'a vécu, nous, cette histoire depuis janvier, évidemment, tout ce que vous vivez aujourd'hui, on le voit. Donc, on a appris à l'époque, on le savait pas, que, par exemple, en période d'incubation, il pouvait être transmis. Ça, on le savait pas. Donc, on pouvait pas imaginer que quelqu'un qui tousse pas, qui n'a pas de fièvre à côté de nous pouvait transmettre ce virus, par exemple dans le train. Donc il y a plein de choses que je savais pas. J'ai pris moins de protection, c'est vrai que je le ferai aujourd'hui. Donc voilà. Donc effectivement, on était quand même dans un moment où on connaissait pas toute l'histoire de ce virus.
T'es-tu senti plus surveillé que d'habitude lorsque tu étais en reportage à Wuhan ?
Eh ben étonnamment, pas du tout. Alors c'est parce que justement j'étais plus inquiet. Moi, je me rappelle avoir raconté la peur des gens, cette inquiétude qui montait très 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 fort le 22 janvier, donc la veille de la fermeture de cette mégalopole de 11 millions d'habitants. Les gens me parlaient que du virus finalement. On ne parlait pas d'autres choses et moi je regardais pas si j'étais suivi comme je le fais souvent en Chine par des gens qui nous protègent dans notre trajet. Non, mais enfin des agents de la sécurité d'État. J'ai pas regardé ça. J'ai pas senti du tout que j'étais surveillé. Honnêtement, je pense que les autorités avaient d'autres chat a fouetté à ce moment-là et donc elles faisaient autre chose, elles n'étaient pas en train de surveiller les journalistes étrangers, elles avaient vraiment autre chose à faire. Et puis surtout, je pense que ça a été un moment, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, Steven, mais je pense que ça a été un moment exceptionnel, cette crise au début de l'épidémie pour les journalistes en Chine, pour les journalistes chinois spécialement. Moi je sais que je leur ai rendu hommage plusieurs fois et sur l'antenne et sur Twitter. J'ai jamais vu ça depuis 2012, je vais dire, j'ai jamais vu autant de journalistes chinois se mobiliser, notamment le magazine Caixin qui a sorti plusieurs scoops, qui a trouvé les lanceurs d'alerte, qui les a interviewés, qui a parlé de l'épidémie dès le début, alors que c'était censuré. Voilà, Caixin, par exemple, ça vaut vraiment un abonnement. Si vous voulez suivre la Chine, il faut les suivre parce qu'ils se sont révélés. Ils ont fait un magazine d'enquête qui est formidable. J'ai aussi lu, évidemment, les correspondants du South China Morning Post. On a tous ces journalistes aujourd'hui expulsés de Chine, des Américains, pour le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. La plupart de ces journalistes-là étaient à Wuhan. Ils racontaient des choses extraordinaires sur les hôpitaux. Je vous ai parlé de l'équipe de France 2. Et puis, il y a aussi tous ces journalistes citoyens bien. Alors je vais pas tous les faire là, mais moi je me souviens de Chen Xiuxi, de Fan Bing, beaucoup de gens qui ont fait des vidéos, par exemple sur ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays, sur les morts dans les hôpitaux saturés, débordés. Tout ça a été filmé, documenté. C'était exceptionnel ce moment de journalisme dans les débuts de Wuhan. Je me rappelle aussi par exemple sur la fin même d'anciens présentateurs ou d'anciens journalistes de la télévision d'État. Donc ça c'est très rare, comme par exemple Li Zerua ou Chu Mengwang. Donc je vous donne les noms parce que je les ai repris. Je pense que c'est des gens très importants qui ont dit par exemple qu'il fallait être humble par rapport à cette épidémie, que les autorités ne disaient pas toujours la vérité. Donc on a eu un moment de journalisme exceptionnel par les journalistes chinois. Moi j'avais jamais vu ça depuis longtemps dans ce pays. On a vu aussi par exemple même des reportages officiels de la télévision d'État à l'intérieur des hôpitaux. Je peux vous dire que quand on était sur place, on connaissait pas cette maladie, on avait tous un peu peur hein, quand même, il faut pas refaire l'histoire. Et ben je les ai vus filmer dans les zones de dans ces chambres fermées pour les à très haut niveau de viralité. J'ai vu des reportages incroyables même de la télévision centrale d'État. Donc je vous dis, c'était un moment incroyable, et puis après ça s'est refermé. Évidemment, tous ces journalistes citoyens ont été arrêtés, ces blogueurs et tout ça, mais pendant donc à ce moment-là, non, on se sentait pas plus surveillé, et la preuve c'est que beaucoup de journalistes chinois ont pu travailler.
En revenant de Wuhan, tu as été placé en quarantaine chez toi. Que retiens-tu de ce moment particulier et de l'exercice de ton métier de journaliste radio dans cette situation ?
Bah pour être très honnête, je l'ai pas bien vécu au départ parce que moi je voulais aller sur le terrain, je rêvais de retourner d'ailleurs à Wuhan. J'étais un peu inquiet pour ma santé. Encore une fois, on connaissait pas bien ce coronavirus. On a appris par exemple 4 jours après mon arrivée que cette fameuse transmission du virus pendant la période d'incubation était possible. Donc là, j'ai dû faire partir ma famille qui était avec moi, hein, qui sont partis en Corée du Sud. Et voilà, donc moi je suis resté dans cette quarantaine. Et très honnêtement, pour un reporter, c'est très frustrant parce qu'on fait tout par téléphone. Il a fallu réinventer des formes comme vous le faites souvent dans l'atelier des médias, mais on le fait pas dans le journalisme entre guillemets classique, dans le reportage classique. Donc il a fallu se mettre à la première personne, raconter par exemple sa quarantaine, ce que font aujourd'hui tous les journalistes en France, mais enfin ou ailleurs d'ailleurs. On a dû raconter ça, inventer, se remettre à la première personne, raconter ce qu'on voyait de sa fenêtre, téléphoner à des gens, faire beaucoup de journalisme par téléphone. C'est plus facile pour la presse écrite, je trouve, de faire du téléphone. Il y a beaucoup de, il y avait des articles tellement bien écrits, en précisant d'ailleurs que ça avait été à la fin joint au téléphone ou joint par streaming sur WeChat, que j'avais l'impression qu'ils étaient sur place tellement c'était bien fait, avec leurs traducteurs qui étaient chez eux aussi. Tout le monde était confiné, même à Pékin. Ils ont pu faire des choses assez extraordinaires. En radio, c'est plus difficile, je trouve, la radio par téléphone. Il faut réinventer des formes, encore une fois. Et il y a un moment où j'étais après un peu désespéré, je vous dis, Steven, c'est quand j'ai fait, c'était le 14 février, oui, c'est ça, je m'en rappelle, j'ai fait un enrobé sur les fleuristes et la Saint-Valentin. Eh bien, j'ai fait un reportage sur les fleuristes par téléphone, et c'était pas terrible, j'ai trouvé, en tout cas, c'était pas très bien. Et là, je me suis dit, quand même, je suis un peu limité dans mon travail. Mais alors, il faut réinventer les choses, évidemment, faire du multimédia comme vous le faites, vous, souvent.
Stéphane, tu le disais, tu es maintenant en Corée du Sud, mais tu gardes encore un œil sur les médias chinois. Que peut-on y lire ces jours-ci à propos de la pandémie de coronavirus ?
Oh ben là, j'ai encore tweeté récemment, par exemple, la télévision centrale d'État qui vient de dire qu'il fallait défendre, alors j'ai plus la citation exacte, mais défendre la nation des cas importés. Moi, je trouve que c'est très triste aujourd'hui ce qui se passe dans les... Pour le coup, je vous ai dit que j'étais fasciné par mes confrères chinois, là je le suis moins, parce que la propagande a repris les devants et on parle beaucoup des cas importés, de tout ça, et que la Chine a tout nettoyé et que sa méthode est formidable. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert de ces confinements, ça a été compliqué, même si effectivement, aujourd'hui... l'épidémie est contenue, et donc c'est très bien, évidemment. Moi, je sais que pendant l'épidémie, j'étais très touché par les Wuhanais. J'ai eu j'étais vraiment très sensible à ça. Je me rappelle, sur mon WeChat, j'avais mis un cœur, Chine, I love China, ou j'en sais rien. Mais I love Wuhan, parce que effectivement ils étaient discriminés, ces pauvres Wuhanais, les gens du Roubaix, qui avaient des plaques du Roubaix qui étaient dans d'autres provinces, qui avaient été pas retournés dans leur province, devaient enlever, enfin cacher leurs plaques ou dire qu'ils n'étaient pas allés. Donc il y avait une vraie discrimination pour eux, je les trouvais très malheureux. Donc j'ai été très touché par la souffrance des Chinois. Je pense qu'il n'a pas été écouté d'ailleurs, quand on voit ce qui se reproduit en Europe, les erreurs qui sont reproduites en Europe ou aux États-Unis. On n'a pas écouté en tout cas les médias occidentaux, les médias étrangers qui racontaient cette souffrance, ces difficultés. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais aujourd'hui, je suis touché à l'inverse par le peu d'humilité, hein, si vous voulez, parce que quand on dit les cas importés, il faudrait voir aussi ce qui a été exporté dans ce cas-là. Et quand la diplomatie chinoise, par exemple, parce qu'elle est en, c'est vrai, en conflit avec d'autres, la diplomatie américaine qui parfois aussi, il va très fort encore pas avec le dos de la cuillère en matière de, j'allais dire, presque dire de fake news, en tout cas de guerre des mots, eh bien elle dit aujourd'hui que le virus n'est pas né en Chine. C'est très grave de dire ça, je le pense, parce que c'est pas une histoire de nommer les virus, mais le virus effectivement est apparu en Chine, voilà, et puis il s'est répandu partout. Et de dire qu'il n'est pas né en Chine, c'est très vexant pour les Coréens par exemple, qui disent, ben quand même c'est gonflé, nous on a soigné tous les Chinois, on continue de le faire dans nos hôpitaux, la patiente zéro en Corée du Sud a été soignée ici dans un hôpital et guérie, heureusement, dans un hôpital de Séoul, elle est venue de Wuhan, donc voilà, il y a toutes ces connexions, et aujourd'hui nier cela, ben c'est très triste je trouve. Donc effectivement, je regarde les journaux et je me dis vivement qu'ils reviennent, et je pense que c'est pas perdu. Moi j'ai une grande, grande confiance, j'ai une grande admiration, toujours dans la presse et dans les journaux chinois, et moi ils m'ont tellement donné, les confrères chinois, à plusieurs reprises dans mon histoire chinoise, que je pense que même s'ils peuvent pas l'écrire, ils n'en pensent pas moins, et que donc on a quand même derrière, ça va revenir. Mais voilà, mais pour l'instant, il y en a qui disent qu'il faut de l'humilité, mais il y en a beaucoup d'autres qui disent, voilà, on a gagné, on est victorieux, regardez les autres, c'est moins bien que nous. Et aujourd'hui, je pense que dans un drame comme celui du coronavirus, dans les souffrances qu'on a dans le monde, on peut pas non seulement faire des comparatifs, mais surtout, il faut se battre tous ensemble.
Merci beaucoup, Stéphane Lagarde.
Merci à vous, merci à l'Atelier des médias.
Et je rappelle que tu es envoyé spécial permanent de RFI en Chine, un pays que tu racontes sur RFI, sur RFI.fr et sur ton compte Twitter. À bientôt. C'est ainsi que s'achève l'Atelier des médias, enregistré chez moi à Paris, confiné avec ma femme et mes enfants dans notre appartement. Simon de Creuse a réalisé cette émission depuis chez lui également, et il a apporté son concours pour qu'elle soit techniquement possible. Merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Et pendant votre confinement, ou futur confinement, qui sait, je vous invite à réécouter en podcast nos émissions passées. On a par exemple reçu le PDG de TV5 Monde, qui doit lancer en septembre une ambitieuse plateforme de contenu francophone. Réécoutez aussi notre entretien avec les réalisateurs d'Invisible, les travailleurs du clic, un documentaire qui s'est notamment penché sur les conditions de travail des livreurs à domicile employés par des géants du web américain. Un sujet criant d'actualité. Je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.